Nous sommes reconnaissants pour le privilège que nous pouvons être ici, de pouvoir être ici pour écouter sa parole, pour l'adorer, oui, pour lui apporter la reconnaissance qu'on lui doit pour ce qu'il a fait en nous. Nous devrions être encore plus reconnaissants pour toutes les paroles du Seigneur, pour la rédemption, pour le salut, pour le plein salut entier que nous avons reçu. Vous savez, quand des gens croient ou bien deviennent croyants et brûlent du premier amour, alors ils n'ont qu'un seul sujet. C'est ce que Dieu a fait en eux. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que d'en parler. Et quand le refroidissement vient et que les choses deviennent tièdes et paresseuses et que l'indifférence même s'infiltre, alors les choses changent. Mais Dieu veut nous ramener au premier amour et que ce premier amour brûle dans notre cœur. Et cela appartient à cela. La restauration, c'est de revenir dans la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, dans l'amour de Dieu, fondamentalement, dans tout ce qui était au commencement, à tout ce qui était au commencement. Tout ce qui était au commencement doit être à la fin. Un seul cœur, une seule âme, unie sous une seule tête, sous un seul chef, Jésus-Christ notre Seigneur. Parler un même langage, avoir une même foi, un seul Seigneur, un même baptême. Une même parole de Dieu. Oui, un seul cœur et une seule âme. Comme donc cela devant notre Dieu. Et être dans une telle atmosphère jusqu'à que toute chose soit possible. Alors, personne n'aura besoin de s'efforcer pour vouloir croire. Alors, il aura des efforts et devra se retenir parce que cela l'emporte et déborde. Et l'enthousiasme de tout ce que Dieu a fait pour lui, par tout ce que Dieu a fait pour lui et a fait pour nous. Je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que tous qui dans ce temps sont croyants peuvent regarder en arrière à une expérience qu'ils ont vraiment fait avec Dieu, qu'ils avaient vraiment avec Dieu? Un jour, une heure dans laquelle une nouvelle vie leur a été accordée. Une heure dans laquelle Dieu les a rencontrés, les rencontrait. Pas seulement une heure dans laquelle ils écoutaient une prédication, mais où la réponse divine vint dans le cœur et que vraiment on savait, maintenant le Seigneur s'adresse à moi, m'a sauvé, m'a pardonné. Maintenant, je lui appartiens. Nous avons ici, dans la parole d'introduction, dans Romains 9, nous avons tous lu. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée, Romains 9, versets 25 et 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Romains 9, versets 25 et 26. Si nous voulons insister rapidement, que dans tous les enfants de Dieu, chaque parole qui est adressé aux enfants de Dieu, doit trouver son accomplissement. Notre conversion doit être semblable à la conversion de celle qui était expérimentée dans l'Église primitive. Notre foi, notre enseignement, tout doit être en accord et comparable aux expériences des premiers chrétiens. Ça doit être en accord. Ça doit être la même chose. Et c'est à cela que nous revenons maintenant. Et nous n'avons pas honte de confesser que nous ne sommes pas encore là où Dieu veut nous avoir. Mais nous nous sommes mis à sa disposition. Et croyons qu'il ne nous décevra pas et ne peut pas nous décevoir, mais que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera. Et ce que je me souhaite à moi-même et à nous tous, c'est une effusion puissante du Saint-Esprit. Vraiment une effusion réelle, vraiment, comme au commencement, du Saint-Esprit. Jusqu'au point où aucune autre semence est dans notre cœur. Que nous puissions seulement porter en nous la semence divine, car cette fois-ci, ce sera comme ça que la pluie peut que faire ressortir la semence qui est dans le cœur. Que produire. Et si dans le cœur, il y a deux sortes de semences, par exemple, donc deux sortes de choses vont apparaître, vont produire de leur espèce. Et là, on doit se poser la question, comme il est écrit dans la parole de Dieu, de la même source, il ne peut pas sortir de l'eau douce et amère. Est-ce que nous voulons irriter Dieu? Non. Nous voulons croire ce qu'il a à nous dire et de tout notre cœur observer ces choses. Nous avons compris que le péché, en fait, qui a apporté tout, c'était l'incrédulité à la parole de Dieu. Et maintenant, la foi en la parole de Dieu, sans compromis, entièrement, doit et va nous ramener, c'est-à-dire dans l'état avec Dieu, où les hommes, ou bien dans l'état dans lequel les hommes étaient avant que l'incrédulité apparaisse et se propage et attire tout avec soi. Le frère Branham a toujours laissé chanter ce cantique. Crois seulement, crois seulement. Mais il ne s'agit pas seulement de croire. Si aujourd'hui nous rencontrons des hommes, ils croient toutes sortes de choses et des choses incroyables. Et si on lit dans Jacques, l'épître de Jacques, il est même écrit dans un verset que le diable croit aussi et tremble. Donc, s'il s'agissait seulement de cette expression-là qui est partout dans le pays, croire. Donc chacun croit quelque chose, même s'il croit qu'il ne croit en rien. Mais le mot croire est dans la bouche des hommes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de croire comme l'a dit les Écritures. C'est à cette foi qui existait au commencement, que Dieu exige croire en sa parole, à ce qu'il a dit, en sa présence, en lui-même, à ce qu'il a fait. Cette foi, n'est-ce pas, est dépendante de ce que Dieu disait, a dit, et est dépendante à ce que Dieu est. C'est pour cette raison que l'importance est mise sur la prédication et pas sur des sensations. Danser et sauter, ça, tous nous pouvons encore le faire, même si nous pouvons encore le faire et que nos membres le permettent encore. Quoique Dieu bénisse, alors tout peut avoir lieu, mais alors ça n'a pas lieu par commandement. Ça n'a pas lieu parce que quelqu'un l'ordonne ou bien le veut ou bien le dit ou bien le demande. Mais cela a lieu dans les hommes et dans les hommes qui ont vraiment expérimenté la grâce de Dieu. Si un infirme est guéri et après saute dans le temple, alors ça, c'est quelque chose qui est normal. Alors, personne ne lui a dit, alors maintenant saute et fais ce que tu peux, montre ce que tu peux. Mais cet homme était enthousiasmé, touché, rempli de joie. Et pour nous, il s'agit que ce ne soit pas seulement des choses qui sont faites de l'extérieur et entrent dans l'intérieur, à produire quelque chose de l'extérieur à l'intérieur et pour produire une atmosphère, mais que la parole de Dieu atteigne notre âme et que l'Esprit de Dieu dans notre âme puisse produire toutes ces choses qui ensuite à l'extérieur deviennent visibles et se manifestent. C'est ce que nous voulons. L'extérieur ne va pas influencer l'intérieur, mais l'intérieur va emporter l'extérieur, influencer l'extérieur et rien pourra empêcher ça. Et c'est ainsi que nous voulons donner à Dieu et à sa parole en toute chose la première place. Avec esprit, nous avons évité de tromper les gens ou bien de nous tromper nous-mêmes, de jouer la comédie, parce que nous savons qu'un jour, nous allons devoir nous tenir devant le Seigneur et penser à cela alors que le frère Branham avait été pris au paradis, dans le paradis, et qu'il vit toute cette gloire. Là-bas, il lui a été dit, tu dois être jugé. Et il a été effrayé et jugé d'après ce que tu as prêché. Et cela devant et en présence de ceux à qui tu as prêché ces choses. Vous pouvez bien vous imaginer que chacun, n'est-ce pas, serait effrayé et très étonné. Il a demandé, mais est-ce que aussi Paul doit se soumettre à ce jugement? Et l'ange de l'Éternel lui a dit, oui, Paul aussi va devoir être jugé en présence de ceux à qui il a prêché. Et alors cette expression de Frère Branham, cette déclaration de Frère Branham, j'ai prêché le même évangile, la même parole, exactement, j'ai baptisé comme Paul a baptisé et j'ai enseigné tout comme Paul l'a fait. Si il réussit le jugement, si il subsiste au jugement et tous ceux avec lui, avec qui il a à qui il a prêché la parole, moi aussi je subsisterai au jugement et tous ceux à qui j'ai prêché la parole. Et il venait à peine de prononcer cette phrase comme d'une chorale de millions de personnes, toute une foule qu'il a eu la grâce de conduire au Seigneur. Et ils ont tous dit unanimement, c'est en cela que nous nous reposons. C'est le même évangile, c'est le même Dieu, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et nous voulons aussi pouvoir dire la même chose en ce jour. J'ai prêché la même parole, le même évangile. Tout était à 100% exact. Oh, quelle louange, quelle joie ce sera! Là-bas, devant la face du Seigneur, ce sera pas un jugement dans ce sens que quelqu'un soit condamné, car ce jugement-là vient seulement après les 1000 ans, du millénium, après le millénium, mais on devra rendre compte. Et de ce que nous avons prêché, et cela sera évalué et comparé à ce qui a été prêché au commencement, et nous devrons en rendre compte. Personne ne devrait prendre ça à la légère, car c'est ainsi que cela a plu à Dieu. Nous serons jugés d'après ce qui a été prêché au commencement. Et lui qui a dit, je suis le premier et le dernier, pas ce qui existe entre, mais tel qu'il l'était au commencement. C'est ainsi qu'il doit être à la fin. Ce qu'il l'a fait au commencement, il doit aussi le faire à la fin. Et le rétablissement a à faire avec ce qui existait une fois et qui n'a plus existé, et que cela de nouveau doit être ramené et restauré et de nouveau exister. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons cette part directe à ce qu'il fait maintenant. Et dans ce plan de Dieu, nous voulons demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le frère Rousse, tout à l'heure, a exprimé que nous pouvons dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. » Et nous allons constater que quand le Seigneur nous prend quelque chose, nous reprend quelque chose, il nous donnera quelque chose de mieux pour cela. Il n'a jamais repris plus qu'il est donné. Il a toujours plus donné, plus qu'il est repris. Et c'est ainsi que nous pourrons lui dire merci de tout notre cœur. Je souhaiterais seulement que tous puissent ne pas seulement dans leur mémoire ou bien dans leur tête avoir la parole du Seigneur, mais que sa parole soit une révélation vivante de Dieu dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Que cela soit devenu ainsi et que nous soyons reconnaissants de ce que Dieu, dans son salut qu'il exécute, nous a inclus. Pensez à ces millions autour de nous, à ces milliards qui habitent sur Terre. Et là, il y a un petit groupe des personnes qui sont insignifiants, qui n'ont aucun nom, aucun titre. Des gens qui sont presque incapables de réussir dans ce monde et comme ça, qui d'eux-mêmes ne peuvent même pas passer par ce monde, et que Dieu, dans sa grande grâce, toi et moi, s'est adressé à nous, nous a appelés, et qu'il nous a fait grâce et nous a révélé sa parole et sa volonté. Ici, avant que Paul écrivait le chapitre 9 de Romains, il a exprimé cette dernière parole dans le chapitre 8 de Romains. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, le verset 39 de Romains 8, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis 107 ou bien 108 ans, cette expression-là est utilisée jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ici, il n'y a pas une séparation, mais il y a resté lié avec Dieu pour toujours, dans toute éternité, pour toute éternité. À Golgotha, alors que Christ mourut, ce n'était pas notre séparation de Dieu, d'avec Dieu, mais c'était notre réconciliation avec Dieu. Oh, le programme de Dieu est totalement contre le programme humain. C'est peut-être raison que les hommes ne peuvent pas comprendre le programme de Dieu parce qu'ils veulent, ils essayent de le comprendre avec leur pensée humaine. Mais celui qui reçoit cela révélé par l'Esprit de Dieu, à lui, cela est réellement révélé par le Saint-Esprit. Et c'est, alors, pour lui, c'est réel. Il peut être qu'il ne peut pas l'exprimer, mais pour lui, il le sait dans son cœur que cette réconciliation est réelle, est une réalité. Il y a encore deux points que j'ai remarqués alors que cela était lu à partir du verset 6. Il est écrit, Romains 9, verset 6 maintenant. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu de la promesse soit restée sans effet, en allemand. Que la parole de la promesse de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Nous pourrons continuer à parler de ça ici, nous l'avons déjà fait ici. Isaac était le fils de la promesse. Abraham avait beaucoup d'enfants, de fils, pardon. Mais Isaac était le fils de la promesse. Il avait le droit d'aînesse, il avait le droit de l'héritage, il avait le droit à la bénédiction. Il n'avait pas besoin de le demander à Abraham et de lui laisser quelque chose. Isaac savait qu'il était automatiquement celui à qui tout appartenait. Et quand, où est-ce que c'est écrit dans Genèse 25, ça nous ne voulons même pas le lire, Abraham, n'est-ce pas, avait donné à tous les autres fils des dons seulement, mais à Isaac. Isaac a reçu tout son héritage, tous ses biens. Donc, il y a beaucoup d'hommes à qui Dieu donne des dons. Ensuite, il les laisse partir, seulement avec des dons. Il leur a donné des dons et il les laisse ensuite, pour finir, partir. Mais il y a aussi des hommes, des gens qui, des promesses divines, par la parole, sont appelés à l'existence par une nouvelle naissance. Et tout ce que nous avons en Christ Jésus, notre Seigneur, nous appartient. Ici au verset 8, il est écrit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romains 8. Romains 9, pardon, verset 8. Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? Qui a remarqué cette parole jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, ont parlé, ont prêché sur la parole de Dieu. C'est pas aujourd'hui qu'on commence à tenir une prédication sur la parole de Dieu. Par des siècles passés, n'est-ce pas, il a été prêché. Mais ce que Dieu, dans ce temps, dans son plan du salut, a révélé. Et comment est-ce qu'il nous a accordé, et la clarté qu'il nous a accordé par sa grâce, cela n'a réellement jamais existé. C'est la fin de toutes choses. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui, dans leur temps, ont reçu la parole de la promesse divine, ça a toujours existé. Mais qu'on ait eu dans un âge toute une vue d'ensemble et l'introduction dans tout le dessein du salut de Dieu, cela était auparavant même pas possible ainsi. Et je peux aussi vous le dire pourquoi que cela n'était pas possible. Les prédicateurs, dans ces presque 2000 années passées, avaient l'Ancien Testament. Oui, ils ont découplé l'Ancien Testament du Nouveau et le Nouveau, ils l'ont interprété comme ils le voulaient. Et alors, ils n'avaient pas de direction, ils n'avaient pas de fondement sur lequel fonder. Ils ont découplé l'Ancien Testament du Nouveau et aujourd'hui, nous savons où est-ce, sur quoi est-ce que nous avons été bâtis. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et aussi en ce qui concerne la restauration de toutes choses, chacun peut le lire clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Là, il est écrit comment est-ce que le Seigneur, depuis les temps anciens, par la bouche de tous ses saints serviteurs ou bien prophètes, l'a annoncé à l'avance. Pas comme les hommes aujourd'hui l'interprètent, mais tel que Dieu, par la bouche de ses serviteurs, depuis les temps anciens, depuis le commencement, l'a laissé annoncer. Et c'est pour cette raison que l'importance est mise sur la parole prophétique pour ce temps que nous vivons justement dans le temps dans lequel ces choses s'accomplissent. Et cette parole prophétique donc brille comme une lumière dans un lieu obscur. Dans ce chapitre 9 de Romains, il y a beaucoup de choses, de pensées précieuses qu'on ne peut même pas tous ici puiser. Mais nous laissons la parole de Dieu, pas seulement, nous la lisons pas seulement dans les églises, dans la réunion, mais aussi nous la lisons tous les jours à la maison et nous approfondons dans les Écritures aussi. Le verset 28. Romains 9, verset 28. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Toujours de nouveau, il s'agit de la parole. « Car le Seigneur exécutera pleinement. » Pas tes propositions ou bien mes propositions. Pas tes songes ou bien mes songes, mais sa parole. Et c'est dans sa parole que, n'est-ce pas, il a fixé tout le déroulement du dessein du salut. Encore ici le dernier verset. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion, Romains 9, verset 33, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Notre Seigneur était les deux. Pour les uns, il était un rocher sur lequel ils pouvaient se fonder et pour les autres, une pierre d'achoppement. Et la même chose a été avec chaque message divin et chaque serviteur de Dieu qui a apparu et messager. Dans Ésaïe 50, il est écrit, à partir du verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je ne me suis pas senti déshonoré en allemand. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Vous savez, cette parole s'est accomplie dans notre Seigneur. On lui a tiré la barbe, etc. Et craché sur le visage. Il a tout supporté. Et les insultes de Belzébuth jusqu'à les dernières. Et il n'a pas répondu et il est écrit ici que par cela, il ne s'est pas senti déshonoré. Vous savez qu'il y a des hommes, comme Paul le dit, qui sur terre passent par le déshonneur eux et l'opprobre. Mais quand on comprend que ce n'est pas à cause de nous, mais que c'est à cause de l'œuvre de Dieu, et du peuple de Dieu, et que en fait, ce n'est pas nous qui sommes concernés, mais que cela est fait contre Dieu. Et celui qui doute là-dessus, je voudrais lui poser la question de tout mon cœur. Qu'est-ce que les hommes pouvaient avoir contre Ésaïe, ou bien contre tous les prophètes? Qui étaient ces hommes? Ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Dieu voulait depuis le commencement, je veux dire, Dieu depuis le commencement a utilisé ces hommes. Mais Satan voulait détruire la parole et par cela, le plan de Dieu. Mais qui est-ce que Satan détruit? Pas la parole. La parole est encore aujourd'hui ici. Mais tous les prophètes, ils devaient subir la souffrance parce que ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Et alors que Christ, notre Seigneur, en tant que la parole lui-même est devenue chair, alors frère Branham le dit d'une manière si merveilleuse, il devait aussi aller dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, comme il est écrit. Et là, frère Branham le dit, le diable, là-bas, l'a reçu. Et lui a dit, alors que je tuais Abel, je pensais t'avoir déjà eu. Et quand je tuais tous les prophètes, j'ai toujours pensé maintenant t'avoir eu. Mais maintenant, tu es ici une fois pour toutes. Et vous connaissez toute l'histoire. Notre Seigneur a aussi là, avait la parole d'autorité à prononcer. Et il a ôté au diable les clés. Il a vaincu. Et il a vaincu l'enfer, la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il vit. Et pas seulement ça, mais tous ceux qui sont morts dans la foi en lui, tous les porteurs de sa parole ont ressuscité avec lui et ont apparu à beaucoup dans la sainte ville. Notre Dieu fait toutes choses bien. Et si nous avions pu demander aux prophètes et leur réponse aurait été tout a servi à quelque chose. Et c'est sûr aussi qu'ils n'ont pas tous compris les chemins par lesquels Dieu les conduisait. Mais il y a une chose qu'ils savaient, il y a une chose qui était certaine. Ils savaient que la parole de Dieu leur avait été adressée, était venue à eux. Et ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement en tant qu'homme la cible de l'ennemi, mais en tant que porteur, mais parce qu'ils étaient porteurs de la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils étaient la cible de l'ennemi. Et si dans ce temps, cela doit être de nouveau ainsi, vous savez, et avec cela, je vous dis pas un mystère. Dans les jours de frère Branham, tout l'enfer était contre lui. Tous les autres évangélistes ont été laissés, on les a laissés tranquilles, ont été laissés en paix. Tous allaient bien comme personne, comme aucun autre homme d'affaires. Car de la chose de Dieu, de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup d'autres choses. Hein. C'était du business. Mais la colère de l'ennemi était dirigée contre un seul. Et un jour, il a dû aussi perdre sa vie et il n'existe plus sur terre. Et tous les autres ont continué et continueront jusqu'à que aussi ils mourront à cause de la vieillesse. Mais les serviteurs de Dieu, les porteurs de la parole de Dieu, à eux, le diable a fait beaucoup de mal. Parce que depuis le commencement, n'est-ce pas? Oui, l'ennemi voulait détruire le plan de Dieu en essayant de l'hybrider et de croiser ce que Dieu s'était proposé de faire. Pour revenir à cette pensée de la parole, j'aimerais, pour insister là-dessus, j'aimerais aller dans Matthieu, le chapitre 12, les derniers versets, et ensuite dans le chapitre 13 aussi, plusieurs écritures. Matthieu, chapitre 12. Ici, nous lisons à partir du verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici, ma mère, ceux-ci ici sont ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. Il lui a été, n'est-ce pas, dit que dehors, ta mère et tes frères et sœurs, ta tante, et le Seigneur, ici, lève sa main, étend son bras et montre ses disciples, tous ceux qui ont abandonné tout, qui vraiment, de tout leur cœur, l'ont suivi. Et il dit, voici ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont ma mère et mes frères et mes sœurs. Nous parlions aujourd'hui ou bien hier de la volonté de Dieu. Maintenant, au chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il faut que cela attire notre attention à tous quand nous écoutons une telle parole du Seigneur. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une prédication qu'un évangéliste tient, ou bien alors d'un discours, ou bien d'un référat, ou bien plutôt d'une présentation. Mais ici, il s'agit de la parole de Dieu. Et la parole qui a une liaison directe au royaume de Dieu, c'est-à-dire directement liée à ce qui se passe dans le royaume de Dieu, pas ce qui est interprété dans la politique ou bien est manipulé dans la religion. Mais ici, il s'agit de la parole du royaume. Donc, il s'agit de la vraie parole, de la parole authentique, de la parole de Dieu, qui est directement liée, qui parle du royaume de Dieu, qui est liée avec le royaume de Dieu, pour nous montrer ce que Dieu dans son royaume a planifié et ce qu'il a comme intention dans son royaume. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et malgré tout, il est écrit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est triste, c'est plus triste que si quelqu'un n'avait jamais entendu la parole du royaume. Et si dans nos paroles ordinaires, ou bien si nous voulons l'utiliser ici dans notre langage, ce serait alors le message de Dieu pour ce temps, n'est-ce pas, qui inclut tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Et si quelqu'un l'écoute, mais ne la comprend pas, alors le malin vient à lui et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme ôte ce qui a été semé dans son cœur. Et donc, la semence dans un tel homme est semée le long du chemin, est tombée le long du chemin. C'était seulement une chose passagère. Il a écouté, il a même reçu, mais il n'a pas compris. Il n'a pas rejeté, mais il n'a pas cru entièrement, il n'a pas entièrement reçu, il n'a pas compris. Il a écouté, mais en ceci et en cela, il est passé à côté. Il a écouté, mais il ne s'est pas laissé apporter en accord avec toute la parole de Dieu et la parole et pour laisser parole de Dieu sur parole de Dieu s'édifier et donner en toutes choses raison à Dieu. Mais il ne la comprend pas. L'ayant écouté Et ici, on n'a pas besoin de faire un mystère là-dessus. Qui sont ces gens-là qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne la comprennent pas? Ce sont tous ceux qui sont convaincus d'eux-mêmes. Qu'ils ont toujours eu raison, ils ont déjà tout su à l'avance. Pour eux, tout était déjà clair à l'avance, avant même de l'avoir entendu prêcher. Ce sont ces hommes-là, auprès d'eux, c'était quelque chose de passager. C'est tombé le long du chemin, et de tels gens continuent leur chemin, quoi qu'ils aient entendu et écouté même la parole du royaume, mais ne l'ont pas compris. Ensuite, comme deuxième chose, au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Même, il croit pour un temps seulement. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Une occasion de chute. Il s'en heurte. Cette parole est très importante. Avons-nous remarqué de quoi il s'agit ici? Il s'agit de ce que nous écoutons la parole. Mais que quand des persécutions à cause de la parole ont lieu, à cause de la parole que nous avons entendue, quand des persécutions ont lieu, quand on est persécuté, alors donc on jette tout et on s'enfuit. Ça, ce sont des gens, pas nous, mais ça, que Dieu nous garde de cela. Mais il y a de telles personnes, ça existe. Des gens qui entendent la parole, mais en eux, elle ne peut pas prendre racine. Tout, eux, va ici et là, il y a de la tempête, il n'y a même pas de croissance possible. Ils sont déchirés en eux-mêmes et ne peuvent pas laisser toute la place à la parole dans leur cœur. La place à la parole pour qu'elle prenne racine, pour qu'elle ait toute la place et prenne racine. Il est écrit ici, mais il n'y a pas de racine. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, vous voyez, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oui, là il y a un enthousiasme sur le messager et le message qu'on pourrait penser, oh, ici, vraiment tous les chevaux passent. Et quand cet enthousiasme est passé et que la réalité, comme ça, commence à se faire voir, alors l'enthousiasme ne pourra rien produire comme effet dans le cœur. Quand ensuite il y a une persécution qui a lieu à cause de la parole que Dieu nous a adressée, alors tout est passé, alors tout est fini. Ils ont trouvé une occasion de chute. Et de tels gens sont considérés enfants du temps, de la circonstance. Comme troisième chose, ici il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et cette parole devient très, très, très sérieuse ici. Vous remarquez ces trois choses, ça devient toujours plus sérieux, toujours plus grave, et l'espace de jeu devient toujours plus étroit. Et si nous pensions que ça concernait d'autres personnes, alors nous devons tous avouer que cela nous concerne tous. Il n'y a personne qui ici pourrait, n'est-ce pas, s'en sortir et penser que oh, cela concerne les autres, pas moi. Non, cela nous concerne tous et c'est à nous que cela est adressé et ces choses nous sommes adressées pour que nous puissions les examiner nous-mêmes. Comment, de quelle manière nous avons reçu la parole et sur quel sol elle est tombée, dans quelles circonstances, quelles conditions nous ont accompagnés depuis que nous avons écouté la parole et est-ce qu'elle a pu produire de son fruit et comment est-ce que les choses se sont en fait pour nous, réellement. Ici, il est écrit qu'elle n'a pas pu être fructueuse. Et si on fait que toujours, sous le coup de la parole, penser aux autres, on n'a même pas besoin de venir à la réunion. Alors, on pourrait aussi rester à la maison et puis faire la même chose à la maison. Quand on vient à la réunion, c'est pour venir nous examiner nous-mêmes. Et Dieu nous parle. Ce n'est pas aux chaises qu'il parle. Et nous voulons aussi nous tenir devant sa parole. Et nous penser concernés. Et ici, il est parlé, n'est-ce pas, des soucis du siècle. Et qui ne les a pas? Celui qui a de l'argent, il a des soucis. Et celui qui n'a pas d'argent, il a aussi des soucis. Et ça n'a pas d'importance. Et comment on voudrait prendre les choses, chaque personne, même si parfois il se montre joyeux. Et quand on pourrait, si on pouvait le surprendre dans ses quatre murs, entre ses quatre murs à la maison, dans sa chambre, on pourrait constater que là aussi, il y a des soucis et des difficultés qui, à l'extérieur, ne sont même pas visibles pour les autres. Et malgré tout, eux, il y a un reste, un troupeau qui reste sans que ces choses-là les concernent, qui par toutes les soucis du siècle, par la séduction des richesses, et qui passe par toutes ces choses qui pourraient étouffer la parole, ou bien veut étouffer la parole, il y a un troupeau qui reste conservé de toutes ces choses. Et ici, il est écrit, à partir du verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est à dire, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-ci porte aussi du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est alors le dernier troupeau, le dernier groupe qui trouve sa mention dans cette parabole. Un troupeau qui réussit toutes les trois premières exemples, épreuves. Et écoutez cela ici de tout votre cœur et avec toute votre attention. Le quatrième troupeau, le troisième groupe, doit être passé par les trois premières épreuves. Le quatrième doit être des hommes qui sont passés par tous ces 1, 2 et 3e épreuves. Ils sont passés par toutes ces étapes. Ils ont pu passer sans être concernés de ce qui s'est passé pour pouvoir être comptés dans le quatrième groupe et pouvoir porter du fruit. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça n'a pas d'importance que nous portons 100 ou 60 ou 30 autres. On n'a plus besoin de se disputer là-dessus selon la plénitude du bâtiment ou bien de l'arbre. Ça, c'est Dieu lui-même qui décidera. Mais ce qui est important, c'est que nous portons du fruit et que nous soyons comptés à ce dernier groupe. Et moi, c'est de ça qu'il s'agit pour moi dans la prédication de la parole de Dieu. C'est ça que nous voulons atteindre pour tout, pour moi et pour tous ceux qui dans ces jours écoutent la parole de Dieu. Alors, si le Seigneur Jésus dit que l'évangile du royaume, ou bien s'il est écrit ici, que celui qui écoute la parole du royaume, les autres traductions disent de toute manière, en anglais et peut-être dans d'autres, il y a des traductions qui utilisent un autre mot pour royaume ici. Il s'agit ici du royaume de Dieu. Il s'agit du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, c'est ainsi que nous l'avons dit, il n'y a qu'un seul roi et sa parole est valable et rien d'autre. Et nous remarquons, dans le premier groupe, il a été dit qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne la comprennent pas. Et dans le deuxième groupe et le troisième, cette pensée n'est plus exprimée. Il n'est pas dit qu'ils l'ont compris ou bien qu'ils n'ont pas compris. Et ensuite, dans le quatrième, de nouveau, il est mentionné que ce sont de telles personnes qui ont entendu la parole et qui la comprennent. Et ce sont ceux-là qui portent du fruit. Ça n'a pas d'importance combien de fruits c'est. Maintenant, la mesure est liée au fruit. Et qu'est-ce que c'est que le fruit? En quoi est-ce que nous reconnaissons le fruit? En quoi est constitué ce fruit? Nous ne pouvons pas aujourd'hui sûrement en parler. Mais cela déjà me suffirait si le Seigneur pouvait me compter au quatrième groupe. Que par sa grâce, avec son secours et avec sa force, je peux réussir les trois premières épreuves et que sans être, ou bien alors sans que rien me nuise, je peux accepter ta parole, l'écouter, l'entendre, la comprendre et la respecter dans son contexte et la laisser dans son contexte. Et ainsi que par sa grâce, il puisse produire ces fruits-là en nous tels qu'il veut les trouver lors de son retour. Que le Seigneur me l'accorde et qu'il nous l'accorde à nous tous par sa grâce. Que nous puissions écouter la parole du royaume, tout le message qui nous éclaire sur le dessein de salut de Dieu et qui nous inclut et nous introduit dans toutes ces choses. Et que les paroles de Dieu, nous avons la grâce de les écouter dans la foi, les recevoir, les repasser dans nos cœurs et les garder, et qu'elles puissent devenir pour nous une révélation dans notre cœur. Je suis de cette conviction, de cette assurance que Dieu nous l'accordera par sa grâce. Avez-vous la même assurance? Alors nous voulons aujourd'hui remercier ensemble notre Dieu, lui apporter l'honneur et l'adoration. Nous n'allons pas être des gens qui ont écouté et qui ont ensuite oublié ce qu'ils ont écouté, des écouteurs oublieux, mais à qui la parole de Dieu a pu leur être révélée et qui ainsi ont été introduits dans le plan de Dieu par la grâce de Dieu. Pour cela, nous voulons maintenant dire merci à notre Seigneur et lui apporter l'honneur. Si aujourd'hui nous devrions encore demander de remercier le Seigneur, alors je dirais déjà presque maintenant, ce ne serait pas correct. On n'a pas besoin de nous supplier de demander au Seigneur, de prier, de remercier le Seigneur. Nous devrions de tout notre cœur ouvrir notre cœur, nos bouches, sans qu'on nous le demande, et apporter à notre cœur, à notre Seigneur, de tout notre cœur, la reconnaissance. Nous voulons nous lever pour le faire venir devant, tel que je suis sans rien de moi. Nous voulons encore ensemble chanter quelques chœurs, vraiment détendus dans la présence du Seigneur. Ensemble, chanter. Ô, c'est Jésus. Ô, c'est Jésus. Ô, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur éternellement. Pour moi, Jésus a apporté déjà la victoire. Alléluia. Père céleste, de tout notre cœur, nous te louons et te célébrons pour ta sainte et précieuse parole par laquelle tu nous as parlé en ce jour, dans cette dernière heure, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire d'autre que louer ton Saint-Nom, t'élever, Seigneur, car tu as des pensées de paix pour nous, comme un père avec ses enfants. C'est ainsi que, avec nous, tu le fais. Et si un père terrestre est capable de donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Mais tu es notre Père céleste. Tu es capable, pas seulement de donner des promesses, mais de les accomplir aussi dans tes enfants que nous sommes. Nous t'adorons et nous te remercions de ce que tu nous accordes, de ce que nous pourrons penser et demander. Loué sois-tu dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. De tout notre cœur, je te remercie dans cette heure dans laquelle nous sommes conscients de ce que cela signifie d'être dans ta présence, réunis en ton nom et écouter ta parole, la parole du royaume, de l'écouter, de la recevoir et de la garder. Cette parole, en son temps, produira ce qu'elle contient déjà en tant que texte. Et ce qui est déjà écrit en tant que promesse, cela, en tant qu'une réalité, va être manifesté pour l'honneur et la gloire de ton nom. Cela me prosterne, oui, et nous prosterne tous. Nous te demandons, Seigneur, accorde-nous un cœur humble. Vraiment humble. Ce ne sont pas nos mérites, encore moins notre dignité, mais c'est seulement ta miséricorde et ta grâce de ce que tu sois descendu et parle avec des hommes avec qui d'autres en partie ne veulent plus parler. Seigneur, comment est-ce que nous pouvons saisir cela? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Nous pouvons nous jeter sur notre face et t'apporter l'adoration et la gloire et l'adoration et l'honneur. Tu t'es dépouillé comme au qu'un autre. Et tu as été aussi humilié. Et jusqu'à même la mort sur la croix, tu es resté obéissant pour que les Écritures s'accomplissent et que l'Église soit rachetée. Seigneur, tout cela était l'accomplissement des Écritures. En toi, tout a été l'accomplissement des Écritures aussi en nous. Toi, l'époux, et nous, l'épouse. Nous te demandons, Seigneur, fais de nous des hommes qui, dans ce monde, déjà expérimentent, ont expérimenté le surnaturel, ont goûté le surnaturel, et qui sont devenus participants au surnaturel, qui ont goûté à ta parole et à ta nature, qui sont participants de ta nature, de ta parole, et qui aussi de ta vie, de ton esprit, et qui portent en eux la vie éternelle. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as fait toutes ces choses et que tu n'abandonneras pas jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée. Tu n'arrêteras pas de travailler, d'agir jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée. Et le septième jour, nous nous reposerons ensemble. Les 1000 ans, pendant 1000 ans, ô Seigneur, sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Dieu, que cela soit notre prière sincère. Pas avec les lèvres, mais avec nos cœurs. Et ainsi nous le croyons aussi. Nous te remercions encore une fois et nous te remettons tout. Aussi nos frères et sœurs qui se sont remis à nos requêtes. Seigneur, tu connais toutes tes difficultés. Tu sais toutes choses avec chacun, ce qui se passe. Ô Seigneur Dieu, que personne ne soit confus qui met sa confiance en toi. Seigneur, restitue-nous tout d'une manière puissante pour que nous puissions nous en réjouir et louer ton saint nom. Tu as parlé avec nous. Nous avons reçu ta parole et par révélation de ton esprit, nous l'avons compris. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci. Loué et adoré sois-tu dans toute éternité, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur.
Amen.
Amen. Souhaitez-vous à tous, les uns les autres, les bénédictions de Dieu. Fin de la transmission.